Alors pour ceux qui n'étaient pas là les derniers dimanches, on a commencé à étudier l'évangile de Jean, et particulièrement dans l'évangile de Jean, ce qu'on appelle les signes que Jésus, que Jean a notés, qu'il a rapportés, les signes qui attestent la divinité de Jésus. Jésus a fait beaucoup de miracles, mais Jean a sélectionné sept signes particuliers qui soulignent, qui démontrent que Jésus est bien le Fils de Dieu, qu'il est le Messie. Et dans Jean 20, 31, Jean nous dit que ces signes nous sont donnés afin que nous croyions que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, nous ayons la vie éternelle. Alors, on a déjà vu deux signes. Vous pouvez vous reporter au site de l'Église pour écouter les messages qui ont été donnés sur ces deux signes. Et ce matin, on va ouvrir nos Bibles dans Jean 5. On aborde le troisième miracle, le troisième signe qui nous est rapporté. Jean 5, c'est l'histoire d'une guérison à la piscine de Bethesda. Après cela, il y eut une fête juive et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a cinq portiques. Sous ces portiques, un grand nombre de malades étaient couchés, des aveugles, des boiteux, des paralysés. Ils attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et le premier qui descendait dans l'eau, après qu'elle avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme infirme depuis 38 ans. Jésus le vit couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit: Veux-tu être guéri? L'infirme lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton brancard, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son brancard et se mit à marcher. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri: C'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton brancard. Il leur répondit: Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton brancard et marche. Ils lui demandèrent: Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton brancard et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui était à cet endroit. Quelque temps plus tard, Jésus le retrouva dans le temple et lui dit: Te voilà guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Voilà, nous sommes donc ici dans le récit du troisième signe, du troisième miracle, qui a pour but d'attester, de démontrer que Jésus est bien le Fils de Dieu. Ce miracle est un peu en lien avec celui qui le précède, puisque au début du chapitre 5, il est dit après cela. Donc, il y a vraiment une suite dans le récit qui nous est fait entre le chapitre 4 et le chapitre 5. Au chapitre 4, on a vu un signe particulier de Jésus, et chaque signe, en quelque sorte, nous apporte un éclairage particulier, personnel, on peut dire, sur la capacité de Jésus et sur son identité de Fils de Dieu. Le premier signe dont on a parlé, c'était les noces de Cana, et on a vu la capacité de Jésus de créer et de recréer quelque chose. Il a changé la nature d'un produit, l'eau, en vin. Et ça, il n'y a que Dieu qui peut faire ça, changer la nature d'une chose pour en faire une autre chose. Le deuxième signe nous a parlé de l'autorité de la parole de Jésus. Ceux qui étaient là, vous vous souvenez, Un officier est venu voir Jésus, lui a dit que son fils était malade, son serviteur, non, son fils était malade, et Jésus n'a pas eu besoin d'aller jusqu'à ce fils, il lui suffisait de dire là où il était que son fils vit. Et à l'heure même où Jésus a prononcé cette parole, cet enfant a été guéri. Le deuxième signe a donc mis en évidence l'autorité de la parole de Jésus. Une autorité semblable à celle de Dieu lui-même. Il n'y a que Dieu qui peut ordonner à distance des choses pour qu'elles se réalisent. Personne n'a jamais pu faire cela, mis à part Dieu et Jésus. On va voir ce troisième signe, et comme je l'ai dit, chacun d'eux est différent et apporte d'une manière particulière un nouveau témoignage sur la personne de Jésus comme Messie, comme Fils de Dieu. Ici, nous nous trouvons donc à Bethesda, à l'intérieur de Jérusalem, et dans ce lieu se produisait un phénomène épisodique, mystérieux. D'ailleurs, il se peut que dans vos Bibles, je ne sais pas, dans la mienne en tout cas c'est le cas, les versets 3 et 4 qui racontent ce qui se produisait à ce moment-là sont des versets entre parenthèses. Vous les avez aussi chez vous? Oui. C'est ce qu'on appelle des variantes bibliques. Une variante biblique, c'est un texte qui se trouve dans certains textes anciens, mais pas dans d'autres, qui sont parfois plus anciens. Et on pense que ces versets ont été ajoutés au cours du temps pour expliquer la raison de tant de malades qui se pressaient dans cette piscine de Bethesda. Il y avait donc une sorte de miracle qui se produisait épisodiquement et on apportait les gens là-bas en espérant qu'ils puissent être au bénéfice de ce miracle. Quand Jésus arrive dans ce lieu, on peut dire que ce lieu, c'est un peu le lieu de l'injustice, en quelque sorte. Il y a comme une loterie à Bethesda, et c'est celui qui est le plus chanceux qui va gagner. Je pense que vous connaissez tous ceux qui, peut-être chaque dimanche ou en semaine, vont à la loterie, hein? Ils vont dans les cafés, tout ça, pour acheter un billet, gratter et se dire, pourvu que je gagne, hein? Je vais remporter le gros lot. Eh bien, c'était un peu ce qui se passait ici, en fait. Bethesda était devenue une sorte de loterie où le plus fort et le plus malin réussissaient à s'en sortir, aux dépens des autres, aux dépens des autres. Le mot Bethesda, je ne sais pas si vous savez ce que ça signifie maison de miséricorde, de grâce ou de bonté. On va voir que c'est important, le nom de Bethesda. En fait, Bethesda aurait dû être un lieu où la miséricorde, la grâce et la bonté prévalent. Mais c'était un lieu de compétition, en fait. C'était le lieu du chacun pour soi. Où, comme je l'ai dit tout à l'heure, le plus fort et le plus malin était celui qui s'en sortait. On le voit bien avec le récit qui nous est relaté ici, qui nous est raconté. Ceux qui étaient les plus faibles n'avaient pas de chance à Bethesda de s'en sortir. Celui qui était là depuis 38 ans, infirme, qui n'avait pas d'aide, pas de secours, eh bien, il était condamné à regarder les autres se jeter avant lui dans la piscine et être guéri. À Bethesda, les choses auraient pu se passer différemment que la façon dont elle se passait. Et si elle s'était passée différemment, Jésus n'aurait même pas eu besoin de faire un miracle. On aurait pu faire à Bethesda, en quelque sorte, une liste des personnes les plus gravement handicapées ou ceux qui étaient là depuis le plus longtemps, comprenez? Et au lieu que chacun se précipite, au lieu de vivre la loi du chacun pour soi, ça aurait été la loi de l'amour qui prévalait. Et le plus ancien, le plus handicapé aurait pu alors être guéri, à chacun son tour. Mais malheureusement, ce n'était pas du tout le cas. Et on voit bien que Bethesda, bien qu'elle soit la maison de miséricorde, de grâce ou de bonté, n'avait plus rien de l'esprit qui devait la caractériser. Je trouve que ce qui se passe ici est une bonne image de ce qui se passe dans le monde, depuis que le péché est entré dans le monde. Dieu avait voulu créer un monde où c'est la loi de l'amour qui règne, où chacun pense d'abord aux besoins de l'autre avant les siens. Mais c'était la loi de l'individualisme et du plus fort qui primait. L'humanité, comme à Bethesda, n'est faite que de gens qui sont blessés, handicapés, malades, infirmes, aveugles, boiteux. Tous, nous avons été touchés, marqués par le péché. Nous sommes tous atteints par un mal. Et chacun essaye de s'en sortir par lui-même comme il peut. Ça, c'est la mentalité qui prévaut dans le monde dans lequel nous vivons. Même si nous prétendons le contraire, il est vrai que nous pensons d'abord à nous-mêmes. Nous essayons de nous en tirer dans la vie le mieux possible. Et nous passons d'abord à nous avant de penser aux autres. Et je crois que malheureusement, c'est un monde, comme Jésus le dit, et comme l'apôtre Paul le dit, un monde qui ira toujours plus dans cette direction. Plus il y a de difficultés, plus la compétition est là. Hein, et plus la loi de l'individualisme et du plus fort prime sur celle de l'amour. Jésus nous a dit dans les derniers temps que l'amour du prochain se refroidira et que les hommes seront de plus en plus égoïstes, centrés sur eux-mêmes. Qu'est-ce que peut faire Jésus dans un tel monde? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Lorsque Jésus arrive quelque part, il discerne très très vite l'esprit qui est dans le lieu où il arrive. Il ne lui faut pas longtemps pour comprendre, capter ce qui se passe réellement. Et on le voit bien ici, Jésus va directement vers la personne la plus nécessiteuse. Il a compris où se trouve celui qui est dans le plus grand besoin ici, à Bethesda. Et au fond, ce que Jésus va faire, c'est qu'il va rétablir ce qui manquait à Bethesda. J'ai dit tout à l'heure que Bethesda est la maison de la miséricorde, de la bonté et de la grâce. Et puisque Bethesda n'existe plus dans le monde, Jésus va être ce Bethesda qui n'existe plus. Il va manifester qu'un monde autre est possible. Un monde où c'est la grâce, la bonté et la miséricorde qui prévalent. Il va rétablir ce qui a été perdu à cause du péché dans ce lieu. Et on peut dire déjà, je peux déjà le dire ici, que c'est vraiment la marque du troisième signe. Jésus va nous manifester la grâce, la bonté et la miséricorde de Dieu. Comment Jésus va-t-il s'y prendre? Ben, comme je l'ai dit, il va utiliser la personne la plus nécessiteuse. Il va la choisir, il va aller vers elle pour dire aux autres ce qu'il est capable de faire à Bethesda. Parfois, on se pose la question, pourquoi est-ce que Jésus a choisi telle personne et pas autre? Ici, il y avait des dizaines de personnes, sans doute, qui auraient pu bénéficier de la bonté de Jésus, de son amour, de sa grâce. Mais Jésus choisit une personne en particulier pour dire aux autres, les inviter aussi peut-être à venir vers lui. Si tu as été choisi par Dieu, Dieu t'a choisi, s'il t'a fait don de sa grâce, c'est pour illustrer, pour dire aux autres ce qu'il est capable aussi de faire dans leur vie. Je sais que dans la Bible, il y a une doctrine qui pose problème. Parfois, c'est la doctrine de l'élection. Hein. C'est le fait que Dieu choisit, qu'il est souverain. C'est pas nous qui décidons, mais c'est lui qui vient vers nous comme ici. Mais son but, c'est pas d'exclure les autres, c'est de démontrer à travers une personne ce qu'il est capable de faire et ce qu'il peut aussi apporter à toutes les autres qui sont autour d'eux. Si Dieu t'a choisi, c'est parce qu'il veut manifester à travers toi, pour ceux qui sont dans ton rayon d'action, ce qu'il est capable de faire dans leur vie aussi. Dans ma famille, ça a commencé par mon frère, Marcel. C'est le premier que Dieu a visité. Et à travers Marcel, j'ai été attiré par l'œuvre de la grâce de Dieu. Et l'apôtre Paul le dit dans 1 Timothée 2, versets 15 et 16, je vais le lire. « Cette parole est certaine et digne d'être acceptée sans réserve. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Je suis moi-même le premier d'entre eux, mais il m'a été fait grâce afin que Jésus-Christ montre en moi, le premier, toute sa patience et que je serve ainsi d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. » Pourquoi est-ce que Dieu a choisi un ennemi de l'Évangile comme Paul au début de la vie de l'Église? Ben, c'est pour montrer toute la richesse, l'immensité de sa grâce. Il a choisi le pire pour qu'à travers lui, pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. C'est la façon d'agir de Dieu dans ce monde. Il choisit un tel, une telle, et à travers lui, il démontre qui il est, et il appelle les autres aussi à venir à lui, à travers sa vie, à travers la transformation qu'il a opérée dans leur vie. On va maintenant un peu nous arrêter à cette rencontre de Jésus avec cet homme, cet infirme. Première chose qu'on voit, au verset 5, là se trouvait un homme infirme depuis 38 ans. Jésus le vit couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps. Jésus n'a pas encore parlé avec cet homme, il ne le connaissait pas avant. Mais rien qu'en s'approchant de lui, il sait, il connaît à fond. Il connaît la douleur, la souffrance de cet homme. Et il sait depuis combien de temps il est dans cet état. Bien sûr, nous devons confesser à Dieu ce que nous sommes, on l'a fait ce matin, mais nous devons savoir que Dieu connaît tout de nous. Il sait depuis combien de temps nous sommes dans tel problème, tel péché, telle difficulté. Peut-être que nous n'arrivons pas à nous en sortir. Depuis combien de temps ça ne va plus dans notre vie? Là, c'était terrible. Depuis 38 ans, cet homme n'avait pas connu autre chose que l'infirmité et la solitude aussi. On en parlera tout à l'heure. Ça doit nous rassurer, cette réalité que Jésus sait. Il sait tout. Parfois, on a peur. Seigneur, on a honte, on n'a pas envie de venir. On se dit, qu'est-ce que le Seigneur va penser de moi? Mais le Seigneur, il le sait. Il n'a pas besoin d'avoir peur. Il est venu justement pour des cas difficiles, impossibles. Des gens qui ne peuvent pas s'en sortir par eux-mêmes, comme ici. C'est la cible de Jésus, cet homme. Parce qu'il veut démontrer à travers lui ce qu'il est capable de faire. Et si dans ta vie, il y a des défis que tu n'arrives pas à relever, eh bien, c'est vraiment cette cible-là que Jésus vise pour te libérer, te transformer et démontrer qui il est. Deuxième chose qu'on remarque, Jésus demande, qu'est-ce qu'il demande? Veux-tu être guéri? Quelle stupidité! Ça semble évident, n'est-ce pas? La question de Jésus ressemble à celle d'un riche qui viendrait dans un bidonville voir un pauvre, le plus pauvre, et lui dit « Est-ce que tu veux être riche ?» Ben, c'est évident, non? C'est évident. Eh bien, ce n'est pas si évident que ça d'ici automatique. Quand on vit dans une certaine condition pendant longtemps, on s'y habitue. Et parfois, quelque sorte, on se trouve rassuré. C'est un peu comme une prison avec des barreaux, mais cette prison, c'est chez nous. On sait qu'on est là. Je ne suis pas. Florine, elle pourrait mieux en parler. Quand on est handicapé, eh bien, on s'habitue à son handicap, on vit avec. Et parfois, on pense que certaines personnes qui sont marquées par des difficultés, des problèmes, ben, elles veulent s'en sortir. Mais ce n'est pas si évident que cela. Est-ce que je suis prêt à quitter ma misère, à changer de vie, à devenir un autre homme que de la façon dont je suis connu? Est-ce que je suis prêt à être libre, à prendre en charge ma vie, à assumer mon existence, à devenir responsable? Parfois, on pense que les gens qui sont dans la rue, par exemple les SDF, eh bien, si on leur en donne la possibilité, ils vont certainement avoir envie de quitter leurs conditions. Mais ce n'est pas sûr. On peut tellement s'habituer à ses addictions, à ses problèmes, à ses péchés, que finalement on s'y trouve bien et on ne veut plus s'en sortir. C'est pour ça que Jésus pose cette question à cet homme. Est-ce que tu veux vraiment changer de vie complètement? Quitter cette condition dans laquelle tu es depuis si longtemps et devenir un homme libre? Notre mentalité peut être façonnée par notre misère, au point que nous y habituons et nous pensons que plus rien ne peut changer. Ce sera toujours comme ça. Mais Jésus nous propose quelque chose d'entièrement neuf, de tout à fait nouveau. Un changement radical, pas simplement une amélioration, une nouvelle création, quelque chose de tout à fait nouveau qui va commencer pour nous. À la question de Jésus, l'infirme ne va pas répondre oui ou non. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Il dit, le problème, en quelque sorte, ne vient pas de moi. Oui, je suis prêt à changer, je voudrais être guéri, mais je n'ai personne. Je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Le problème de cet homme, c'est que finalement, il est livré à lui-même et qu'il ne peut compter sur personne pour l'aider. Je crois que certainement, ce qui est dit ici, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un peu une photo du monde dans lequel on vit. Ben, c'est aussi une réalité pour beaucoup de gens, il faut le dire, la solitude. Cet homme avait peut-être une famille, mais sa famille ne s'occupait plus de lui. Peut-être qu'il avait eu autrefois des amis, mais il s'était sans doute lassé. Il les avait perdus, il se retrouvait tout seul. La mission de Jésus, c'est à la fois de s'occuper de ceux qui sont dans le besoin, mais de s'occuper aussi de ceux qui n'ont personne. Et je trouve que c'est là quelque chose qui, en tout cas, moi, m'a de nouveau interpellé. Est-ce que je suis attentif autour de moi à ceux qui n'ont personne? Ceux qui n'ont personne. Depuis une vingtaine d'années, je m'occupe d'une personne qui n'a personne, à part moi, pratiquement. Vous ne la verrez pas dans l'église parce qu'elle est trop limitée. Mais cette personne est devenue chrétienne. Elle croit en Jésus depuis que je la visite. Elle a l'espérance de se retrouver un jour avec lui. Et je crois que, comme je l'ai dit, on doit vraiment être attentif. Peut-être que nous pouvons être la personne envoyé par Jésus auprès de ceux qui n'ont personne, pour les amener à le connaître, à le découvrir et à saisir qui il est. 38 ans qu'il attend une personne qui serait prête à venir l'aider. C'est terrible. Et Jésus est cette personne qu'il a attendue depuis si longtemps. Et peut-être que dans notre entourage, il y a des gens aussi comme ça, qui attendent une réponse, une solution. Ils ne savent pas vers qui se tourner. Et il n'y a personne qui s'intéresse à eux. Prions vraiment pour que Dieu nous mette sur le chemin de ces personnes-là, parce que c'est la mission, c'est le terrain de mission que Jésus a choisi. Ceux qui sont dans le besoin et ceux qui n'ont personne. Une autre chose qu'on peut dire de ce texte, ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on se rend compte que la parole de Jésus produit l'effet. On en a déjà parlé la dernière fois. Il suffit d'un mot à Jésus pour que cet homme soit guéri. « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton brancard, marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son brancard et se mit à marcher. Je pense qu'on n'imagine pas le bouleversement que ça a pu être pour cet homme. Un changement incroyable que Dieu a opéré, que le Seigneur a opéré dans sa vie. Et ce qui est le plus incroyable, c'est qu'il ne savait même pas qu'il avait guéri. Jésus a agi pour lui. Il va l'amener à le connaître, il va le découvrir de plus en plus, cet homme qui l'a guéri. Mais on voit ici toute la grâce de Dieu, la bonté de Dieu, à travers ce que Jésus a fait. Jésus ne demande rien à cet homme, sinon qu'il se lève. Il est là pour le guérir. Et quand Jésus commence dans notre vie, il ne nous demande rien. Il est là pour nous transformer, pour nous apporter sa force et faire de nous des nouvelles personnes, comme cet homme le sera. Alors j'aimerais parler un peu courtement des miracles. Parce que les miracles, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans la Bible, à certaines périodes de l'histoire. Les miracles, c'est toujours quelque chose qui interroge les hommes, les êtres humains. Parce que nous n'avons pas l'habitude du miracle. Nous pensons que certaines choses sont impossibles. Comment un homme infirme peut-il être guéri? Comment un aveugle peut-il voir? Un boiteux se mettre à marcher? Un mort, comment peut-il ressusciter? Les miracles de Jésus, vous le savez, sont sans doute les faits les plus contestés par ceux qui lisent l'Évangile et qui ne croient pas. On dit que c'est des images, des paraboles. On essaye de trouver des explications scientifiques parce qu'on ne peut pas entrer dans l'idée que le miracle est possible. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le monde dans lequel nous vivons n'est plus un monde normal. Il n'est plus le monde de Dieu. C'est un monde qui a été affecté par le péché. Et en fait, on ne se rend pas compte que nous vivons dans un monde complètement anormal, où les lois ont été déréglées. Les infirmités, les handicaps, la mort, tout cela qui fait partie de notre quotidien, n'existerait pas et n'existe pas dans le monde de Dieu. Saint Augustin a dit à propos des miracles que ceux-ci ne contredisent pas la nature, mais seulement la nature telle que nous la comprenons. Comprenez? Nous avons une certaine idée de la réalité, nous pensons que c'est comme ça que ça doit exister, parce que nous n'avons pas d'autre monde dans lequel nous vivons. Nous sommes dans un monde fermé, limité. Dieu est dans un monde ouvert, où tout est possible. Il n'y a pas de limite à ce que Dieu est capable de faire. Alors nous sommes étonnés par les miracles, mais chaque jour, il y a des milliers de miracles qui se produisent autour de nous. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit que Christ soutient tout par sa parole puissante. Ça veut dire que le moindre brin d'herbe, la moindre fleur, le plus petit des oiseaux, des insectes, vit par la force que Dieu lui communique. Hein. Nous sommes tous soutenus par une force qui nous fait vivre et qui est la puissance de Dieu. Et cette puissance, parfois, elle se manifeste de façon surnaturelle, de façon spéciale, dans des individus, dans des situations, et Dieu montre par là sa toute-puissance à travers le miracle. Je vais vous lire ce que dit Paul Wells, un théologien. Il dit « Dans l'histoire du salut, les miracles attestent de l'action de Dieu et appellent à la repentance et à la foi. Les miracles sont étroitement associés à l'accomplissement du salut. Ceci est frappant tout au long de l'histoire. Quand Dieu fait avancer son projet, le miracle se produit. Il y a ainsi de longues périodes sans miracle. Ceux-ci sont surtout présents lors des grands moments de la rédemption. L'Exode au temps de Moïse, l'apparition des prophètes avec Élie et Élisée, la venue de Jésus et les premiers pas de l'Église avec les apôtres. En dehors de ces moments chauds, les miracles sont peu fréquents dans la Bible. Le miracle est avant tout un signe de la grâce de Dieu. En fait, c'est l'irruption du royaume de Dieu qui avance, qui avance, qui avance dans le monde. Et un jour, nous serons dans un monde où le miracle sera permanent, où on vivra complètement de la puissance de Dieu. On sera débarrassé de toutes les limites dans la connaissance, dans la communion, dans la vie physique. On connaîtra vraiment la réalité du royaume de Dieu. Il y a un texte dans l'Évangile qui confirme cela. Quand Jean-Baptiste était en prison, vous vous rappelez, à un moment il s'est mis à douter et il s'est dit « Est-ce que tu es bien celui qui doit venir ?» Et Jésus dira « Allez rapporter à Jean ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Quel est le signe qui atteste que le royaume de Dieu est venu, que le Messie est venu? Eh bien, c'est le fait que tout ce qui a été déformé, abîmé, rendu anormal à cause du péché est rétabli. Le miracle est là pour dire que Dieu rétablit ce qui devait être dès l'origine et qui a été détruit, en quelque sorte, par la puissance du péché. Dieu annule les conséquences, les anomalies qui se sont produites dans la création avec la venue du péché. Et bien sûr, le plus grand miracle, ce n'est pas la guérison du corps, c'est la transformation d'un pécheur en saint. Hein. C'est la nouvelle naissance. D'ailleurs, Jésus, vous le verrez, on le voit ici, ne va pas s'arrêter avec cet homme qui l'a guéri à sa simple transformation physique. Et c'est intéressant de voir que, très rarement en tout cas, Jésus s'arrête à cela. Il retrouve cet homme qui est dans le temple. Alors peut-être que cet homme... Eh bien, il a pris conscience ce qu'il doit à Dieu. Il est dans le temple, peut-être là pour remercier Dieu, je ne sais pas. Mais il retrouve Jésus dans ce lieu. Et Jésus lui donne encore une dernière parole, verset 14. Quelque temps plus tard, Jésus le retrouva dans le temple et lui dit « Te voilà guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Le souci de Jésus n'est pas simplement la guérison physique, c'est le salut de cet homme. Et c'est intéressant de voir combien de fois Jésus place le salut de l'âme au centre de ses préoccupations. Il y a un autre récit dans Matthieu 9. Vous vous rappelez certainement d'un homme qui était paralysé et qui était venu apporté par ses amis aux pieds de Jésus. Ils avaient enlevé les tuiles du toit. Première chose que Jésus dit à cet homme, tes péchés sont pardonnés. Il était préoccupé d'abord de son salut, avant de lui dire « prends ton lit et marche ». Ici, c'est l'inverse. Jésus a commencé par le physique, il lui a dit « prends ton lit et marche ». Mais Jésus ne veut pas le laisser à mi-chemin du salut. Il veut qu'il comprenne que le plus important, ce n'est pas simplement qu'il soit guéri, mais c'est qu'il soit délivré du péché dans sa vie. À quoi sert-il à cet homme d'être guéri par Jésus si son âme n'est pas sauvée? C'est pourquoi Jésus l'avertit et lui dit « Il y a quelque chose de pire que le fait d'avoir connu la solitude et la paralysie pendant 38 ans. » Et ce pire, eh bien, c'est de connaître une solitude et on peut dire une misère qui dure éternellement. C'est ça le pire. Il y a une voie qui mène vers quelque chose de pire que d'être infirme pendant 38 ans, c'est la voie du péché. Si tu persévères dans la voie du péché et que tu ne cherches pas à être délivré du péché, comme tu as voulu être délivré de ton infirmité, alors quelque chose de pire t'attend. Quelque chose de pire. On doit se rappeler, pour nous, c'est une phrase que je me suis notée, si nous sommes incroyants, le seul paradis qu'on va connaître, que les incroyants vont connaître, c'est celui qu'ils vivent maintenant dans cette vie-là. C'est leur seul paradis. Après ce paradis, ce sera l'enfer. Si nous, mais pour nous en tant que croyants, le seul enfer que nous vivrons, c'est celui que nous vivons maintenant. Vous comprenez ce que je veux dire? Le pire, il est maintenant pour nous. Le mieux, il vient après. Pour les incroyants, le mieux, c'est maintenant. Le pire viendra après. Il n'y a que Jésus qui est capable de mesurer la gravité du péché. C'est beaucoup plus grave, le péché, que la maladie, que l'infirmité, même le pire des handicaps. Et c'est de ce pire-là que Jésus est venu nous sauver. La condition la pire, c'est d'être seul, sans espoir et sans avenir pour l'éternité. Et en tant que Messie, en tant que Sauveur, Jésus est venu nous délivrer du pire. Alors bien sûr, on peut faire appel à lui pour nos besoins maintenant, et sa grâce, elle est là. Mais nous devons savoir que même si nous sommes aidés dans le présent par Jésus, si nous n'avons pas la paix avec Dieu, si nous persévérons dans le chemin du péché, alors tout ce que Jésus aura pu faire de bon pour nous ne servira à rien, parce que le pire sera devant. Dans notre vie, nous devons absolument nous préserver du péché, comme de la peste. Il n'y a rien de pire que cela. Le péché nous sépare de Dieu et nous prive du royaume de Dieu. Il nous déconnecte de sa puissance et il nous place sous la malédiction. Et la conséquence, c'est la perdition, d'après Jésus, un lieu où il y aura des pleurs et des grincements de dents pour l'éternité. Mais par Jésus, Dieu a fait venir Bethesda au milieu de nous. Jésus est notre lieu, le lieu, l'endroit, la personne au travers de laquelle se manifeste toute l'étendue de la grâce, de la bonté de Dieu et de sa miséricorde. Alors quel est le message du troisième signe? Bien, il est double. Le premier, c'est que nous devons venir à Jésus tel que nous sommes et que nous trouverons auprès de Jésus toute la grâce, la miséricorde et la bonté dont nous avons besoin. Et le deuxième message, c'est que ce dont Jésus veut nous sauver, c'est des effets du péché dans notre vie et de sa puissance. Le meilleur est devant nous, parce que Jésus a pris sur lui notre péché. Il nous a délivrés de cette maladie terrible qui a affecté toute l'humanité. Et c'est pourquoi nous pouvons venir à lui librement. On l'a vécu aussi ce matin. Quelle grâce de savoir que le royaume de Dieu nous est accessible, et avec le royaume de Dieu, toutes les bénédictions, toute la puissance, tout ce qui réside dans la personne de Dieu, toute sa bonté est là pour nous. C'est dans cet objectif et pour cet objectif que Jésus est venu. Alors je vous rappelle Jean 20, 31. Pourquoi est-ce que tout cela nous est écrit? Tout cela nous est écrit pour que nous croyions que Jésus est le Fils de Dieu et qu'à travers lui, nous puissions avoir la vie éternelle, la vie éternelle. Alors que Dieu nous donne de venir à Jésus, non seulement pour que notre vie soit meilleure dans ce monde, mais aussi surtout pour que nous puissions être libres, gardés, préservés du péché. C'est ça le plus important.